France Inter.
Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Dans ce journal, nous reviendrons sur les mesures d'urgence pour l'accès aux soins en France, dévoilées hier par le ministre Gabriel Attal. Septième mois de guerre entre le Hamas et Israël, la reconstruction de la bande de Gaza paraît encore bien loin. Mais l'ancien diplomate et ex-secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Maurice Ripert, y pense déjà. On ne jette plus les jouets. Smoby et King Jouet les récupèrent. Un nettoyage de printemps pour les recycler, y compris les plus encombrants.
Et à suivre à 7h50, il représente presque un élève sur cinq en France. C'est l'enseignement privé. La guerre scolaire est-elle relancée ? On en parle en studio avec Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique.
France Inter.
Gabriel Attal s'attaque aux déserts médicaux. Il veut rassurer les patients qui n'arrivent pas à trouver un rendez-vous médical. Dans une interview à la presse quotidienne régionale, le Premier ministre rappelle des mesures déjà annoncées pour faciliter l'accès aux soins, l'embauche de 10 000 assistants médicaux, l'ouverture de la vaccination aux pharmacies. Et il annonce aussi des expérimentations, de nouvelles mesures pour libérer des places dans les cabinets de médecine libérale. Célia Kiré.
Principale nouveauté, dans un département par région, les patients pourront directement prendre rendez-vous chez un spécialiste sans passer par leur généraliste. C'est une expérimentation. Ensuite, le gouvernement veut former davantage de médecins. Le but est d'avoir 16 000 étudiants en deuxième année de médecine en 2027. C'est deux fois plus qu'en 2017. On ouvre les vannes dans les universités. Au sujet des gardes, rien de contraignant à ce stade, mais le gouvernement souhaite donner une prime aux médecins qui accepteraient de faire une garde dans leur département voisin. Les infirmiers, les dentistes, les sages-femmes pourront contribuer à cette permanence des soins. Enfin, les pharmaciens pourront prescrire certains antibiotiques dès le mois de juin. Cela avait été déjà annoncé. Le but, encore une fois, est de libérer des créneaux de médecine générale, tout en responsabilisant les patients. Gabriel Attal le précise dans cette interview. La taxe lapin sera de 5 euros pour un rendez-vous non honoré. Mais c'est le médecin qui décidera de faire payer cette amende ou pas, en fonction des cas. Et pour cela, il faudra modifier le code de santé publique. Ce qui n'est pas si simple.
La médecine, ce sont aussi les médicaments, Laurence, et la faune marine pourrait contenir des molécules intéressantes.
Mais pour le savoir, il faut séquencer ce génome marin, car de l'océan, finalement, on ne connaît pas grand-chose en vérité. Il existe déjà un inventaire des micro-organismes à cette échelle génomique, les bactéries, les virus, le plancton. C'est à présent au tour des autres organismes, algues, poissons, crustacés ou mammifères marins. Un programme piloté par le Muséum d'Histoire Naturelle, le CNRS et le CEA va séquencer 4500 espèces marines ces 7 prochaines années. Un nouvel atlas de référence pour la biodiversité marine mis à disposition de toute la communauté scientifique, Sophie Bécherel.
Quand en 2001, le projet de séquençage du génome humain a été achevé, il est immédiatement devenu une référence pour étudier des maladies ou la diversité des populations, par exemple. Avoir une référence, c'est aussi l'objectif de DiveSea. Mais pour 4500 espèces marines, c'est dire l'ampleur du projet. De Dunkerque à Nouméa, en passant par Roscoff ou Banyuls, des milliers d'échantillons vont être collectés.
Des animaux, des champignons et des végétaux.
Lynn Le Gall, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle et chef de projet.
Notamment les algues et des herbes marines. Le gros de la biodiversité est dans des mollusques, des escargots, des limaces de mer, et les crustacés, des vers marins. Et le troisième groupe en termes de nombre, ce sont les poissons.
À peine récoltés, les échantillons seront congelés à moins 80 degrés. L'ADN ne se conserve qu'à cette condition. Ensuite, direction les laboratoires du Génoscope en région parisienne. Au CEA, Patrick Vinker est co-directeur d'AtlasSea.
On s'attend à ce que le génome de la plupart de ces espèces qui ne sont pas étudiées recèle de très nombreux gènes dont les fonctions ne sont pas connues.
En comparant des centaines d'espèces, les chercheurs vont découvrir pourquoi certaines algues sont statiques quand d'autres se déplacent, pourquoi les espèces invasives prennent parfois le dessus. Cet atlas des génomes marins permettra aussi d'accéder à des molécules d'intérêt pour de futurs médicaments.
Sophie Bécherel, 5 jeunes toujours en garde à vue dans l'enquête sur la mort de l'adolescent passé à tabac jeudi à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Les charges respectives qui pèsent sur ces 5 garçons âgés de 15 à 20 ans n'ont pas été détaillées, pas plus que le mobile de l'agression, mais selon l'un de ses amis, l'adolescent a été victime d'une expédition punitive sur fond de contentieux amoureux. La guerre entre Israël et le Hamas, le conflit entre ce dimanche dans son 7e mois, le jour où les négociateurs se retrouvent en Égypte pour une nouvelle tentative de parvenir à une trêve associée à une libération d'otages. Rappelons que l'attaque du 7 octobre a fait 1170 morts en Israël, plus de 33 100 morts côté palestinien, une bande de Gaza où où près de 2,5 millions d'habitants sont désormais menacés de famine. Des civils pris au piège, des combats qui n'ont aucun endroit sûr pour se mettre à l'abri. La bande de Gaza n'est plus qu'un champ de bataille qu'il faudra bien un jour reconstruire. Cet ancien diplomate, ex-secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Maurice Ripert, lance un appel pour que les Nations Unies soient au cœur de la reconstruction de l'enclave palestinienne. Christian Chéneau.
Avant de penser à reconstruire l'enclave palestinienne, l'urgence est d'abord de donner à manger aux Gazaouis et de les soigner, estime l'ancien ambassadeur Jean-Maurice Ripert.
On y arrivera avec une aide humanitaire massive. Pour être massive, elle ne peut être organisée que par les Nations Unies. Pour permettre aux Nations Unies de faire leur travail, il ne faut pas hésiter à sécuriser l'aide humanitaire. Il faudrait probablement, pour être capable de la délivrer correctement, qu'elle soit protégée par des forces de police internationales, bien sûr, indépendantes, pourquoi pas de l'Union Européenne, par exemple.
Une fois que le cessez-le-feu interviendra, il faudra mettre en place un plan de reconstruction, mais aussi imaginer une nouvelle administration de la bande de Gaza. Là encore, le rôle de l'ONU pourrait être précieux, estime Jean-Maurice Ripert.
Ça a été fait en 1999, à la fin de la guerre du Kosovo, par les Nations Unies. Le Conseil de sécurité a voté une résolution, la célèbre résolution 1244, qui crée et une force de maintien de la sécurité et de la paix, mais l'autre de l'administration civile, c'est-à-dire qu'on a confié aux Nations Unies la reconstruction et la pacification du Kosovo. Et ça a marché.
Mais Gaza n'est pas le Kosovo. Tout dépendra de la volonté des grandes puissances et des pays régionaux de faire pression ou pas sur Israël et les Palestiniens pour imaginer les contours d'une sortie de crise durable.
Christian Chéneau, ajoutons qu'hier soir, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre Benjamin Netanyahou dans de nombreuses villes israéliennes. 100 000 personnes rien que pour Tel Aviv, selon les organisateurs, des manifestants qui réclament la démission du Premier ministre israélien. En Slovaquie, Peter Pellegrini, allié du gouvernement populiste du Premier ministre Robert Fico, remporte la présidentielle au second tour. Cet économiste de formation devance largement le diplomate pro-européen Ivan Korkok. L'invasion de l'Ukraine par la Russie aurait été l'un des éléments clés de la campagne électorale. La Slovaquie pourrait désormais suivre la voie pro-Kremlin du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Et voilà le grand ménage de printemps lancé par les marques King Jouet et Smoby. Recycler plutôt que de jeter les vieux jouets encombrants qui traînent au fond du jardin parce que les enfants ont grandi. Alors on ne jette plus à la déchetterie balançoire, trampoline ou toboggan. Les deux grandes enseignes se proposent de les récupérer jusqu'au 15 avril, peu importe la marque, et qu'ils soient en bon ou mauvais état, du moment qu'ils sont complets. Vous repartirez avec un bon d'achat de 5 à 25 euros, mais surtout les acteurs de la filière veulent inciter les consommateurs à recycler les jouets. Justine Clot.
C'est du gagnant-gagnant d'après Coralie Guédon, responsable RSE pour King Jouet.
Ça leur permet de faire de la place. Je vois notre magasin d'Albi qui nous envoyait des photos, qui commençait à récupérer des maisons qui étaient toutes cassées. Et j'imagine le soulagement du client qui a pu faire de la place dans son jardin et qui, avec le bon d'achat, a racheté un toboggan par exemple.
Les clients s'y retrouvent, mais la planète aussi. 100 000 tonnes de jouets sont jetées chaque année selon l'ADEME.
C'est énorme et aujourd'hui, la plupart, on peut les retrouver dans des décharges à ciel ouvert, dans l'eau exactement. Donc c'est une très très grosse problématique.
Fini donc les paniers de basket qui terminent dans les océans. Ecomaison s'occupe de les recycler, explique Mathieu Gouty, responsable de la filière jouets.
Même si le jouet est abîmé, même s'il est cassé, c'est pas grave. L'enjeu, c'est de ne plus le jeter dans les encombrants, mais bien de les déposer à Ecomaison. Et nous, derrière, on se charge du recyclage.
C'est Smoby qui récupère ensuite la matière recyclée pour fabriquer de nouvelles balançoires. Alexis Delorme est le directeur général du fabricant de jouets.
Ce qu'on cherche à faire, c'est pas d'aller chercher de la matière vierge, alors qu'on est capable d'utiliser de la matière qu'on recycle. Donc ça évite d'aller taper dans les ressources aujourd'hui, quoi.
Reste à espérer que les clients déposent suffisamment de jouets en magasin. Il faut recycler une dizaine de toboggans pour fabriquer une seule maisonnette de jardin.
Justine Clot. Un cœur, un visage mort de rire. Je veux parler des émojis. Ces petites icônes colorées, stars, des smartphones, une forme de langage à part entière avec ses propres codes. Mais d'où viennent-ils ces émojis? Comment ont-ils été créés? Un journaliste et un dessinateur explorent cette question sous la forme d'un roman graphique d'enquête. Julien Baldacchino.
Le point de départ des deux auteurs est une interrogation sur l'origine des émojis aujourd'hui très populaires. David Groison a réalisé une enquête journalistique avant d'écrire le scénario de la BD.
Je me suis dit pourquoi il y a un émoji pompe à essence, centrale nucléaire et pas d'éolienne. Comme j'ai une formation de journaliste, j'ai tiré ce fil-là en cherchant des infos sur qui décide des nouveaux émojis, qui les a créés, etc. Je me suis dit il y a une matière telle que ça vaut pas le coup d'en faire un article, c'est plus sympa d'en faire une BD et du coup j'ai proposé à Paul de travailler ensemble.
Tout au long des pages du livre, on rencontre les premiers dessinateurs et dessinatrices de ces émoticônes, ceux qui décident des nouveaux émojis créés, mais aussi linguistes et juristes spécialistes de ce qui est devenu un langage codifié à part entière, un vocabulaire visuel que le dessinateur Paul Rey a intégré à ses dessins.
Les émojis et la bande dessinée, c'est deux champs du dessin qui sont justement très codifiés, qui sont vraiment un langage. Mes pages de bande dessinée, c'est presque un manuscrit, ça se rapproche du langage émoji. Au-delà de la technologie émoji, c'est surtout une manière de communiquer.
Tout au long de l'histoire, le fil rouge, c'est la candidature de l'émoji éolienne, une fiction qui rappelle les précédents des tentatives échouées de la raclette ou du drapeau breton d'intégrer cette célèbre liste d'icônes.
La révolution émoji, c'est aux auditions Bayard Graphique.
Ouais, pouce en l'air et petit clin d'œil pour ce journal, Laurence Thomas. À suivre, la nouvelle vie d'Elisabeth Borne dans l'édito politique et portrait du premier ministre indien Narendra Modi dans la chronique. On va en reparler.